7h24 sur France Culture, l'heure de la revue de presse avec Ezequiel Fernandez. Bonjour Ezequiel.
Bonjour Lucas, bonjour à tous.
Le jour d'après au Venezuela, un lendemain de scrutin qui suscite beaucoup d'inquiétudes dans la presse internationale.
Violence et abstention marquent l'élection de la constituante, titre ce matin le journal espagnol El País, qui suit la situation au Venezuela minute par minute. Quotidien qui parle d'une douzaine de morts enregistrées depuis samedi soir. Ce matin, le gouvernement colombien fait état d'une participation, le gouvernement vénézuélien, pardon, fait état d'une participation de 41,5%, taux de participation qualifié d'extraordinaire par Tibisay Lucena, la présidente du Conseil national électoral. Un enthousiasme qu'il s'agit bien sûr de tempérer. L'opposition parle quant à elle, en ce moment en tout cas, de 12% de participation. Le chiffre officiel est à prendre avec précaution. L'envoyé spécial d'El País a en effet constaté hier que dans le centre de Caracas, il n'y avait pas foule, vraiment pas, devant les bureaux de vote, juste de quoi faire en sorte que les caméras de télévision maquillent la réalité en filmant des files d'attente en plan rapproché. Il n'est peut-être pas inutile, dans l'attente des résultats et du nouvel appel à manifester aujourd'hui de la part de l'opposition, de rappeler quelques-uns des vices de forme qui entachent le scrutin. Les paramètres de l'élection excluent les candidatures issues des partis politiques, celles qui ont conduit à la victoire de l'opposition lors des législatives de 2015, cela paraît logique. Des zones rurales pro-gouvernementales seront surreprésentées, c'est ainsi expliqué El País, qu'un vote dans une province rurale peut valoir jusqu'à 26 fois un bulletin déposé dans un bureau de l'anti-chaviste Caracas. Grâce au mode de scrutin encore, combinant vote territorial et par secteur socio-professionnel, 62% des 20 millions d'électeurs ont pu se prononcer deux fois, ce qui soulève d'autres interrogations sur la validité du résultat. Nicolas Maduro veut enterrer la Carta Magna, la constitution de la République bolivarienne du Venezuela, impulsée par Chavez en 1999. Cette critique n'est pas formulée par l'opposition, mais par d'anciens chavistes, rédacteurs de ce texte, ou comme la procureure en chef Luisa Ortega Díaz, qui est d'ailleurs dans le collimateur en ce moment du pouvoir, conclut El País.
Et le journal colombien El Espectador fait le tour des pays qui ne reconnaîtront pas la nouvelle constitution vénézuélienne.
Et fait le compte des manifestations qui se sont déroulées hier en même temps que le scrutin, que ce soit à Caracas, à Mexico, Honduras, Porto Rico, entre autres. Les gouvernements péruviens, panaméens, dominicains, chiliens condamnent cette élection qui viole les normes de la Constitution et la volonté souveraine du peuple. Aloísio Núñez, le président brésilien des affaires étrangères, avertit le Venezuela qu'il va vivre un scénario d'anomie dans la mesure où il aura à terme deux ordres constitutionnels différents. J'avoue, Lucas, que je ne connaissais pas ce terme d'anomie, je pense qu'il en est pour vous. Voilà. En tout cas, il s'agit d'un concept élaboré par le sociologue Émile Durkheim, définition dans le Larousse, état de désorganisation, de déstructuration d'un groupe, d'une société, dû à la disparition partielle ou totale des normes et des valeurs communes à ses membres. On ne saurait en effet mieux décrire ce qui se passe au Venezuela. El Espectador cite enfin le seul chef d'État sud-américain à faire entendre une voix distincte, le Bolivien Evo Morales, qui critique les prises de position de la Colombie, du Mexique et de Panama, des pays qu'il accuse d'être soumis aux États-Unis. Alors justement, comment l'administration Trump réagit-elle à ce qu'elle considère être une mascarade électorale? Elle fait désormais peser la menace de nouvelles sanctions contre le secteur pétrolier vénézuélien, secteur qui rapporte 95% des devises au pays, rappelle le Wall Street Journal. Mais pas question pour l'heure d'envisager un embargo sur les exportations de Caracas. Les raffineries américaines importent chaque jour, il faut le savoir, 750 000 barils vénézuéliens. Et les raffineurs américains exercent un lobby plutôt vigoureux contre cet embargo parce qu'ils ont besoin du pétrole brut vénézuélien. Jeudi dernier, dans une lettre adressée à Donald Trump, il déclare que limiter les importations ne ferait que déstabiliser le marché du pétrole et aboutir à l'augmentation du prix de l'essence à la pompe aux États-Unis. L'option retenue serait donc celle du blocage des exportations de pétrole léger américain au Venezuela, j'espère que vous me suivez, qui forcerait alors Caracas à importer ce produit d'Algérie ou du Nigeria, ce qui lui coûterait bien sûr beaucoup plus cher et augmenterait encore ses difficultés. Bref, Washington réfléchit aux sanctions, mais tout en préservant ses intérêts.
Moscou, de son côté, va expulser 755 membres diplomates américains en poste en Russie. C'est la réponse de Vladimir Poutine aux nouvelles sanctions décidées par Washington.
Le président russe s'exprimait à la télévision hier soir. Le nombre de membres du corps diplomatique Yankee passerait à 455, c'est-à-dire exactement le nombre de leurs homologues russes aux États-Unis. Jamais, écrit le Washington Post, une mesure d'une telle ampleur n'avait été prise par Moscou, en tout cas depuis la révolution de 1917. Cette déclaration de Vladimir Poutine est intervenue lors du voyage du vice-président américain Mike Pence en Europe de l'Est, Estonie, Géorgie, Monténégro. Celui-ci, interrogé par des journalistes à Tallinn, la capitale estonienne, a bien précisé la position de Donald Trump. Les activités déstabilisatrices de la Russie, son soutien des régimes voyous, ses activités en Ukraine sont inacceptables et qu'il ne fait aucun doute que le locataire de la Maison Blanche allait paraffer le projet de loi sur les nouvelles sanctions qui viennent d'être adoptées par le Congrès. À propos des personnels diplomatiques américains, le Washington Post précise que sur les 1200 employés actuels, 333 seulement sont américains, ce qui limiterait le nombre de personnes expulsées vers les États-Unis. Quoi qu'il en soit, c'est un moment clé dans les relations américano-russes, selon Andrei Kolesnikov, journaliste pour Kommersant. La patience de Vladimir Poutine est à bout. Il commence juste à mettre en œuvre tout ce qu'il avait exclu jusqu'à maintenant. Le président russe ne s'en cache d'ailleurs pas. Il s'attend à ce que les relations entre les deux pays se détériorent et il peut donc envisager d'autres variantes de riposte.